Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur l'avenir de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo, d'autant que les désaccords sont nombreux, ils sont profonds entre les deux alliés qui dirigent le pays, le FCC de l'ancien président Joseph Kabila et CACH du président Félix Tshisekedi. Alors parmi les sujets qui fâchent, je citerai la réforme de la justice, la réforme de la commission électorale, ou encore, c'était pas plus tard que la semaine dernière, la prestation de serment de trois nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Les tensions sont vives entre les pro-Tshisekedi et les pro-Kabila. La tension est telle que dans les deux camps, des voix se lèvent de plus en plus pour réclamer la rupture. En tout cas, pour l'instant, le chef de l'État estime que l'heure du divorce n'a pas encore sonné. Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation. Il prône l'union sacrée. Alors peut-il y parvenir? La coalition au pouvoir a-t-elle encore un avenir? On en parle ce matin. Et au regard des commentaires postés, des réactions que nous recevons au standard, vous êtes nombreux à souhaiter prendre la parole. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vous le savez, on commence l'émission avec vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Et on va commencer justement avec une question sur cet appel de Félix Tshisekedi à l'union sacrée. Bonjour Cédric.
Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe de l'aspect de l'actualité.
Vous êtes à Kinshasa, on vous écoute, soyez le bienvenu.
Oui Juan, après des mois de tensions au sein de la coalition FCC-CACH, le président Tshisekedi a annoncé le vendredi dernier de vouloir consulter les acteurs politiques et sociaux en vue de créer une union sacrée. Quelle forme peut prendre l'union sacrée annoncée par les chefs de l'État? Et est-ce qu'il va tendre également la main aux partis d'opposition comme Coalition Lamuka?
Excellente question que vous posez Cédric. Bonjour Sonia Rollet.
Bonjour.
Envoyé spécial de RFI en République démocratique du Congo. Alors il faut quand même rappeler à nos auditeurs qui nous écoutent un peu partout à travers le monde qu'au regard des tensions entre les deux camps, certains s'attendaient vendredi à une dissolution de l'Assemblée nationale, d'autres misaient plutôt sur la formation d'un nouveau gouvernement. Autant dire que le discours du président Tshisekedi était très attendu et finalement le chef de l'État a annoncé des consultations en vue d'une union sacrée. Que faut-il comprendre et quelle forme pourrait donc prendre cette union sacrée?
Alors, une union sacrée, vous le savez, c'est une union qui est censée dépasser les clivages politiques. Donc, on le voit souvent avant des conflits ou autres, les leaders politiques appellent à une union sacrée pour répondre en fait à des difficultés auxquelles fait face la nation. Donc, ça voudrait dire qu'il y aurait des consultations, et c'est ce que disent des proches de Félix Tshisekedi, que ces consultations iront bien du FCC ou de leader ou de représentant du FCC à des partis d'opposition, comme effectivement les partis de Lamuka ou qui constituent Lamuka, qui est la principale coalition de l'opposition. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de liste qui a été établie. On sait que la présidence y travaille depuis ce week-end, mais les invitations n'ont pas encore été lancées. Évidemment, le CACH, donc la coalition présidentielle, ne représente que 47 députés à l'Assemblée sur 500. Donc si le président veut dégager une majorité qui lui permette de mener ses actions, puisqu'il avance qu'il y a des blocages et qu'il a besoin d'avoir un soutien, et cette union sacrée est censée soutenir son action, sa vision et ses décisions à l'avenir, eh bien, il va falloir qu'il trouve plus de 250 députés. Donc 47 250, il y a une marge qui est importante. Oui. On sait que les députés de Lamuka représentent à peu près une centaine de députés, que certains des leaders pourraient effectivement rentrer dans ces discussions, mais qu'ils vont aussi poser des conditions. Mais ensuite, il va falloir effectivement obtenir un certain nombre de députés ou aller débaucher un certain nombre de députés du côté du FCC de Joseph Kabila, car les proches du président Tshisekedi sont clairs, ils ne veulent plus deux pilotes dans l'avion, et donc ils veulent véritablement que le président arrive à se démarquer de son prédécesseur. En tout cas, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Du côté du FCC, on affirme que certains affirment que ce ne sont que des manœuvres destinées à eh bien, à tordre la main de son partenaire, Joseph Kabila, et d'autres estiment qu'il est clairement temps de mettre fin à cette coalition, mais que le président n'arrivera pas à obtenir une majorité et que donc on va rentrer dans une période de cohabitation. Oui. Donc c'est un peu tout ça qui se décide. On voit que le FCC est en réunion depuis plusieurs jours et que Joseph Kabila consulte. Il va y avoir encore des consultations aujourd'hui. Il pourrait y avoir une retraite d'ici la fin de la semaine. On ne sait pas exactement quand est-ce que les consultations elles-mêmes vont commencer. Du côté de la présidence, on attend aussi de voir quelles vont être les réactions des acteurs. Mais c'est vrai que tout le monde est un peu dans l'attente de toutes les parties, que ce soit la présidence ou les parties qui pourraient être concernées. Eh bien, on se réserve de déclarations définitives à ce stade et on attend de savoir un peu quelle va être la forme que vont prendre ces consultations.
Et en attendant d'en savoir plus, on en parle tout à l'heure évidemment avec les auditeurs, on va décortiquer ensemble les différents scénarios possibles. En tout cas, à noter cette phrase de Félix Tshisekedi lors de son discours vendredi, lors de son adresse à la Nation, il a prévenu qu'aucune option n'était exclue. Aucune option n'était exclue. Que faut-il comprendre? Eh bien, on en parle tout à l'heure ensemble avec vous, auditeurs. Sonia Rollet, merci beaucoup, bonne journée. Cédric, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, merci beaucoup Juan et merci à Sonia Rollet.
Bonne journée à tous les deux à Kinshasa, 9h16 ici à Paris, 33 9 693 693 70. Les résultats contestés de l'élection présidentielle en Guinée, on en a beaucoup parlé hier sur RFI dans cette émission, on en parle encore ce matin avec des questions. Bamazid, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Conakry, soyez le bienvenu.
Oui, merci Juan. Bonjour à toute l'équipe des appels sur l'actualité et les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons.
Un commissaire de la CENI guinéenne, issu de l'opposition, a fait un rapport dans lequel il a soulevé des anomalies, notamment le transport de certains PV et la centralisation des votes. Ma première question, quelle preuve ce rapport fournit-il à ce point?
Alors, c'est vrai, vous avez raison de vous interroger. C'est un rapport qui a été publié au lendemain de la proclamation des résultats, donnant, rappelons-le, Alpha Condé vainqueur dès le premier tour avec plus de 59% des voix. Et dans ce rapport, Mamadou Banosso, vice-président de la commission électorale, dénonce toute une série de manquements. Bonjour Carole Valade.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI en Guinée. Le vice-président de la CENI, qui rappelons-le, est issu de l'opposition, c'est tout de même important de le préciser. Le vice-président de la CENI dénonce le manque de transparence dans la remontée des procès-verbaux. Il pointe du doigt également la disparition ou encore la falsification de procès-verbaux. Quelles sont ces preuves?
Alors, de preuves en tant que telles, il n'y en a pas vraiment, mais il y a de nombreux exemples, en tout cas, de localités et de cas d'anomalies pour conclure, je cite, à un manque de traçabilité dans la chaîne de remontée des résultats. Par exemple, il affirme qu'à Koya, les urnes n'ont pas été dépouillées sur place, mais emportées par les forces de défense et de sécurité, que des délégués des candidats ont été expulsés avant le dépouillement, notamment en Haute-Guinée, que dans certains bureaux, les résultats n'ont pas été affichés, que le PV n'a pas été remis au vainqueur, et que beaucoup de PV ont disparu, ont été refusés ou remplacés à leur arrivée dans les commissions de centralisation. Des affirmations qui sont contestées par la CENI dans une déclaration qui circulait depuis hier. Chaque candidat était représenté dans les 38 CACV, affirme-t-elle. Et elle ajoute que la totalisation s'est faite dans la transparence, puisqu'elle était composée de la totalité des commissaires et que tous les partis politiques y avaient accès.
Et dans sa déclaration, le vice-président de la CENI propose la reprise du scrutin dans la région de Haute-Guinée, fief du parti au pouvoir. Pour quelle raison?
Eh bien, c'est en raison en fait d'une forte concentration d'anomalies qu'il note dans cette région. Dans plusieurs localités, le taux de participation oscille entre 98 et, tenez-vous bien, plus de 100%, 100,14% à Farana par exemple, alors que toutes les cartes d'électeurs n'y ont pas été distribuées selon le rapport. Des chiffres bien supérieurs à la moyenne nationale, hein. Par exemple à Conakry, la capitale, la participation elle est à 66%. À Farana, toujours, le vice-président s'étonne du faible taux de bulletins nuls, 1,47% contre 4% dans le reste du pays, alors qu'il s'agit d'une circonscription rurale où le taux d'analphabétisme est très élevé.
Vous avez une autre question, Bamazid?
Question par rapport à ces élections, bien sûr. Il a proposé la reprise de l'élection en Haute-Guinée. Alors, quelle est la réaction de la CENI par rapport à ça?
Ah, y a-t-il eu des réactions du côté de la CENI, Carole Valade?
Oui, effectivement. D'abord, la CENI, elle conteste la forme. Elle y voit une démarche politique du fait que le vice-président, on l'a rappelé, est issu d'un parti d'opposition. Et donc, dans cette déclaration qui circulait hier, la CENI affirme qu'il a donc rompu son serment de neutralité. Maintenant, sur le fond, la CENI considère qu'elle a fini son travail désormais après la proclamation des résultats provisoires et qu'à ce stade, eh bien, seuls les candidats peuvent déposer des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Il leur reste encore jusqu'à dimanche prochain pour le faire. À la réception des plaintes, la Cour, elle dispose de 5 jours pour rendre son arrêt, échéance fin de semaine prochaine donc. Mmh. Mais comprenez que cet arrêt, il ne peut prendre que 2 formes. Hein. C'est ce que m'expliquait le porte-parole de la CENI, Mamadi Troakaba. Soit les résultats sont validés, soit l'élection est entièrement annulée et donc il est impossible, selon les textes, de reprendre le vote dans une seule région, comme le suggère le vice-président.
Bamazid, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, merci Jeanne et merci à tous.
Et merci surtout à Carole Valade, correspondant de RFI à Conakry. Et on reparlera évidemment des résultats contestés vendredi dans la Libre Antenne. Vous avez été plusieurs milliers à nous appeler et à nous contacter ces 2 derniers jours. On repasse au standard, au 33 9 693 693 70. Bruce est avec nous, bonjour.
Bonjour Monsieur Juan Gomez et bon retour.
Merci, oh, j'ai pris une petite semaine de vacances. Bruce, vous nous appelez de Brazzaville et vous avez des questions concernant les ingérences étrangères dans la campagne électorale américaine.
Effectivement Monsieur Juan, les services de renseignement américains ont révélé qu'ils soupçonnaient la Russie et l'Iran pour tentative d'ingérence pour les élections présidentielles américaines. Je veux savoir... D'après les révélations, de nombreux emails ont été envoyés aux électeurs démocrates afin de les pousser à voter pour le président Trump. Mmh. Mais quel intérêt aurait Téhéran à soutenir la réélection du président Trump ?
Ouais, moi-même, je me suis posé la question, Bruce. Hein. Alors, nous avons contacté pour vous un professeur d'informatique, Kaveh Salamatian. Bonjour.
Bonjour.
Professeur d'informatique à l'Université Savoie-Mont-Blanc, vous êtes chercheur rattaché à l'équipe Géode de l'Institut français de géopolitique. La Russie et l'Iran sont donc accusés de semer le trouble dans la campagne américaine, d'influencer le vote des électeurs. Visiblement, si on en croit le directeur du renseignement américain, l'Iran aurait mis la main sur des listes électorales ?
Oui, effectivement, il y a cette annonce qui a été faite par le directeur du service de renseignement américain, qui est relative à un mail, à une série de mails qui ont été envoyés le 20 octobre à plusieurs milliers de votants enregistrés aux États-Unis en Floride et qui les menaçait de représailles s'ils votaient pas pour Trump. Donc, les éléments factuels sont les suivants. Ce mail a été envoyé d'un serveur en Estonie, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, et il pointait vers montrer une attaque potentielle qui serait faite sur un serveur basé en Moldavie, qui aurait contenu les informations des votants américains.
Ah oui.
Donc on est dans un véritable embrouillami géopolitique avec toute une série d'éléments.
Oui, mais Kaveh Salamatian, on voit bien la complexité hein, pour envoyer ces mails. Mais quel intérêt l'Iran aurait-elle à demander aux électeurs de voter pour Trump alors que Trump, on le sait, on le rappelle, s'est retiré de l'accord nucléaire international de 2015, qu'il a imposé des sanctions extrêmement sévères à Téhéran. C'est paradoxal.
Alors, la désinformation est un jeu de billard multibande avec des actions qui peuvent avoir des contre-coups. Il y aurait dans cette affaire-là une hypothèse qui serait qu'on est ici dans le cadre d'une provocation, d'un essai du gouvernement iranien de semer le chaos. Mmh. On sait que le gouvernement américain a pris à construire une série de comptes fake sur Facebook ou autres qui étaient partisans ou adversaires de Trump. D'ailleurs, tout adversaire, tout acteur qui se respecte dans ces problématiques-là fera toujours attention de se mettre des deux côtés de la barrière et de pousser à un côté ou de l'autre. Mmh. Donc, il y aurait une possibilité pour que les Iraniens essayer de semer le chaos. Mais il y a aussi une autre possibilité qui est qu'on est ici confronté à quelque chose qui est de l'ordre de la manipulation d'autres acteurs. Dans le monde du cyber, c'est extrêmement classique de laisser des traces pour un autre pays et qu'un pays laisse des traces d'un autre pays pour faire penser que c'est quelqu'un d'autre qui a mené une attaque. En France, nous avons déjà goûté ça avec TV5 Monde. Mais on est dans un monde de clair-obscur. Et dans cette affaire-là, les éléments qui pointent vers l'Iran sont très, très minces. Mmh. Puisque le seul élément que nous avons, c'est une adresse IP qui aurait été utilisée précédemment par les Iraniens. Or, cette adresse IP est le point de sortie d'un serveur de VPN, donc qui peut être utilisé par n'importe quelle personne.
Bon, en tout cas, officiellement, l'Iran n'a pas de préférence. Le ministère des Affaires étrangères a catégoriquement démenti les accusations américaines. L'Iran n'a pas de préférence entre Biden et Trump, a déclaré un porte-parole du gouvernement. Kaveh Salamatian, professeur d'informatique à l'université de Savoie-Mont-Blanc, merci infiniment d'avoir pris quelques minutes pour répondre à Bruce. On a contacté également ce matin un autre expert pour répondre à des questions sur le Liban avec le retour au pouvoir de Saad Hariri, Karim Émile Bitar. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'Institut de sciences politiques à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, Ozana, qui nous appelle du Tchad, a justement des questions sur le retour de Saad Hariri. Bonjour Ozana.
Bonjour Anne et bonjour à votre équipe dynamique d'appel sur l'actualité.
Merci de vos encouragements, nous vous écoutons.
Saad Hariri est de nouveau nommé Premier ministre au Liban un an après sa démission. Alors j'aimerais savoir, comment expliquer le retour à la tête du gouvernement de Saad Hariri qui avait pu démissionner il y a un an sous la pression de la rue?
Oui, il y a un an, Saad Hariri contraint à la démission. Le pays était alors le théâtre de manifestations demandant le départ de l'ensemble de la classe politique. Une classe politique, rappelez-vous, que la population accusée d'être corrompue, d'être incompétente. Karim Émile Bitar, comment expliquer le retour au pouvoir de Saad Hariri?
Cela peut sembler très étonnant, en effet, c'est une véritable gifle pour tous les manifestants qui étaient dans les rues de Beyrouth il y a un an. Cela s'explique par un phénomène de lassitude, de fatigue révolutionnaire. La rue n'a pas réussi à s'unifier, à produire des leaders charismatiques, à produire une plateforme de revendication commune. Et par ailleurs, le Parlement qui est en charge de nommer le Premier ministre est toujours le même. La classe politique, contrairement à l'opposition, a réussi à faire bloc, à faire un front commun contre le peuple, en quelque sorte. Les partis communautaires qui sont au pouvoir depuis une trentaine d'années se sont tous ligués, même si de temps en temps ils se divisent autour du partage du gâteau, ils se sont tous ligués contre les revendications populaires et ils sont ainsi parvenus à reconstruire un front commun et à revenir au pouvoir.
Et surtout à remettre Saad Hariri au pouvoir. On a l'impression qu'il est l'homme providentiel au Liban. Il n'y a personne d'autre pour tenter de former un gouvernement d'union, un nouveau gouvernement. Certes, vous me direz qu'il y a eu quand même deux prédécesseurs à Saad Hariri. Tous les deux ont démissionné. Tous les deux ont jeté l'éponge.
C'est ça, il y a eu des tentatives de mettre à la tête du gouvernement des figures indépendantes, des technocrates, des figures n'ayant pas trempé dans la politique de ces 30 dernières années. Et ça n'a pas été de très grande réussite, car le cartel de la classe politique traditionnelle, les leaders communautaires, ne les ont pas véritablement laissés travailler, ils n'ont pas réussi à s'émanciper et ils n'ont pas réussi à se construire une propre base politique. Oui. Donc aujourd'hui, on a un retour de la vieille garde en quelque sorte, et la question sera de savoir si on va reprendre les mêmes et recommencer, ou si une nouvelle équipe va se constituer, s'ils vont quand même tirer les leçons des erreurs du passé.
Oui. Alors Ozana, quand il nous a contacté, nous demandait est-ce que Saad Hariri peut vraiment réussir là où il a échoué il y a tout juste un an?
Oui, alors ça c'est une très bonne question. On connaît la vieille formule d'Einstein qui disait la définition de la folie c'est de faire la même chose et d'espérer de nouveaux résultats, d'espérer des résultats différents. Au Liban, on a tendance à reprendre les vieilles formules du passé et à chaque fois on s'étonne que ça ne marche pas. Donc les vieilles formules de gouvernement d'union nationale qui rassemblent toutes les forces communautaires ont échoué. Aujourd'hui, l'idée de Saad Hariri, c'est de constituer un gouvernement d'indépendance, c'est-à-dire que lui-même serait à sa tête, mais que ce serait un gouvernement de technocrates, de figures n'ayant pas trempé dans la politique.
Voilà, il voudrait des experts qui ne seraient pas issus de partis politiques. Merci infiniment, Karim Émile Bitard, d'avoir été avec nous, directeur de l'Institut de sciences politiques à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Dans 10 minutes, vos réactions sur le bras de fer à la tête de l'État en République démocratique du Congo, mais d'abord le journal.